Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans Revolution 909. Je m'appelle Zachary et vous écoutez une nouvelle émission sur Radio Campus Tour, dans laquelle je vais tenter d'explorer avec vous la passionnante histoire de la musique électronique. Si j'étais très relativiste, j'exagérerais en disant qu'aujourd'hui, toute la musique est électronique. Avec le numérique, une grande majorité de la musique populaire contemporaine est composée, enregistrée et travaillée par ordinateur. Elle peut être ensuite écoutée en streaming sur nos appareils personnels. Mais bon, en vrai, on voit bien ce que c'est la musique électronique, on en a à peu près tous une vague idée dans la tête. C'est de la musique constituée de sons produits par des instruments électroniques, ou bien des sons produits acoustiquement, puis traités dans un second temps par l'électronique. Développée tout au long du XXe siècle, la musique électronique est entrée voilà 50 ans dans le paysage musical populaire et ne l'a jamais quittée. Mais avant de devenir ce que l'on connaît tous aujourd'hui, la house, la techno, l'ambient, la drum and bass, il faut revenir aux bases. L'électronique a d'abord dû être inventée, maîtrisée, et ne s'est dans un premier temps ouvert à la musique que dans sa forme savante. Voyons voir déjà comment la fée électricité en est venue à la musique. Quand est-ce qu'on a commencé à utiliser l'électricité dans du matériel musical? Alors on retrouve la trace de premiers instruments électriques dès le 18e en Europe. Ladislav Prokofievich, un théologien tchèque et précurseur des recherches sur l'électricité, va créer en 1730 le légendaire Denis d'Or. On a très peu d'infos sur cette espèce de clavecin, seulement des traces écrites. Le Denis d'Or devait être un clavier d'une rare complexité qui permettait notamment d'imiter d'autres instruments à cordes comme la harpe. L'innovation est intéressante, mais en plus Divich chargeait d'électricité statique les cordes de son instrument pour améliorer la pureté du son. Ça occasionnait aux musiciens qui jouaient de petites décharges. C'est le premier instrument proto-électrique qui n'ait jamais été inventé. Partons quelques années plus tard en France, où en 1759, Jean-Baptiste Tillet de Laborde conçoit ce qu'il appelle un clavecin électrique. L'instrument est mieux documenté que le Denis d'Or, mais en fait celui-ci utilise aussi l'électricité statique. De plus, ce clavecin électrique est plus proche du carillon électrique que du clavecin. De Laborde va utiliser l'électricité pour transmettre l'action de touches de clavier sur des petites cloches. L'abbé Berthollon parlera aussi de clavecin, mais cette fois de clavecin magnétique, en 1785. Le carillon, cette fois-ci, utilise le magnétisme pour faire sonner les cloches. Mis à part ces exceptions européennes, il faut attendre la fin du 19e siècle et l'utilisation de l'électricité pour la transmission de messages à distance. Parce que dans un premier temps, musique et télécommunications sont liées. C'est en pensant pratique que l'Américain Elisha Gray proposa en 1874 un télégraphe harmonique, qui reposait sur l'utilisation des fréquences musicales plutôt que sur le code Morse pour désencorger le réseau mondial. Elisha Gray est un homme très important dans l'histoire de la télécommunication sonore. Il contribua à l'invention de l'amplification électrique, du haut-parleur, et fut l'un des co-créateurs du téléphone. De son côté, le Suisse Matthias Hips crée en 1867 un piano électromécanique. Les touches du clavier actionnent des électroaimants qui vont faire tourner des petites dynamos qui produisaient le son. À l'aube du XXe, on voit donc voir apparaître les premiers instruments électromécaniques. Électromécanique, ça veut dire qu'il y a un mélange entre mécanique et électricité. Bien souvent, ça veut dire que le son est produit physiquement, qu'un capteur reçoit les vibrations et la retranscrit en signaux électriques. Vers 1900 naît le telharmonium de Thaddeus Cahill. Cette espèce d'orgue était assez spécifique. Chaque note est produite par une roue phonique, tournant à différentes fréquences. L'écran qui recouvre la roue passe juste devant un capteur qui traduit cette variation en électricité. C'est assez fou. L'oscillation de base n'est plus acoustique, mais elle n'est pas encore totalement électronique. L'instrument avait cependant pour contrainte le fait qu'il n'existait encore pas de véritable haut-parleur, d'autant que Cahill voulait développer les concerts téléphoniques de telharmonium. Ainsi, on pouvait commander à New York des concerts téléphoniques de telharmonium, rendus écoutables par une grosse intensité électrique sur le réseau. Mais bon, sans doute, l'engouement s'est vite arrêté, et puis de toute façon, les concerts gênaient complètement les lignes téléphoniques de New York où il était installé. Quoi qu'il en soit, le telharmonium a eu un impact considérable sur la synthèse sonore. Cahill fut très influencé pour son instrument par un livre publié en 1870 sur les sensations du ton. Son auteur, Hermann von Helmholtz, est le premier à parler du son comme d'une multitude d'ondes sonores pures additionnées. En effet, un piano et un violon peuvent jouer la même note, mais ils n'auront pas le même son exactement, ils n'auront pas le même timbre. Et là, Helmholtz nous parle du plus petit dénominateur commun du son, l'onde sinusoïdale pure. Celle qu'on entend par exemple en attente au téléphone. Cahill s'est donc dit « bah chouette, je vais essayer de créer un instrument avec plein de générateurs d'ondes sinusoïdales, comme ça je pourrais faire tous les sons du monde ». Le telharmonium est donc en soi le premier synthétiseur additif, où le son peut être modulé en ajoutant des ondes. Autre curiosité, les lampes à carbone restent utilisées dans les années 1890 en Angleterre malgré l'invention de l'ampoule. Les lampes à carbone produisent non seulement une étincelle, mais aussi un bruit honnêtement assez désagréable. Forcément, on commence à être habitué, un ingénieur, la personne de William Duddell, va découvrir qu'en modifiant l'intensité du courant électrique, il pouvait moduler le son produit par la lampe, créant l'arc chantant. En fait, ça ressemble au fonctionnement des bobines Tesla qu'on peut voir sur YouTube aujourd'hui. C'est relativement anecdotique, mais ça permet d'introduire l'un des premiers éléments électroniques, héritier de l'ampoule, la lampe triode, qui va permettre l'amplification électronique du son à partir de 1906. Et oui, jusqu'ici on ne parlait pas d'électronique, tout n'était encore que du courant électrique plutôt simple. L'électronique, pour aller vite, c'est une branche de la physique appliquée, donc à vocation industrielle, qui s'occupe de tout ce qui est lié au traitement de signaux électriques. Autrement dit, les dispositifs dits électroniques peuvent traiter les différentes informations qu'un courant électrique peut délivrer, et peut aussi en envoyer. Aussi, le créateur de la triode, Lead Forest, va dès 1915 créer son propre instrument, le piano Odion, où le son est produit par les premiers oscillateurs purement électroniques. Pour faire simple, on prend deux lampes triodes qui produisent des fréquences sonores proches, mais très élevées, que l'on ne peut pas entendre. L'association des deux permet de créer en quelque sorte une nouvelle onde entendable par l'oreille humaine. C'est le principe de la multiplication des ondes, ou de l'hétérodyne. Bravo les gars, vous venez de créer le principe de la radio. Le principe de deux ondes qui en créent une troisième, on peut l'entendre quand par exemple deux instruments s'accordent. L'un est légèrement plus bas ou plus haut que l'autre, ce qui fait que le son des deux instruments évoque une espèce de trémolo. Cette technique d'oscillation purement électronique fait des émules. Tournons-nous vers la Russie, où Lev Sergeyevich Termen dévoile en 1920 son Theremin. Premier véritable succès mondial dans la catégorie des instruments électroniques, le Theremin produit grâce donc à l'hétérodyne un son affecté par la présence de corps à proximité des ondes. Le joueur de Theremin bouge donc simplement les mains à la fois pour la tonalité et pour le vibrato. Cela donne un son proche de la scie musicale, ou même de la voix humaine, qui va, dans les années qui suivent, être utilisé pour évoquer l'espace, l'ailleurs, les extraterrestres. En effet, le theremin n'a aucune limite tonale. On peut donc y faire des glissando ou du vibrato. Le theremin a pu avoir une grande influence dans le monde, notamment grâce à Lénine en personne. Après avoir assisté à une démonstration, il propulsa le jeune inventeur dans des tournées mondiales pour promouvoir le génie technologique russe. Voilà donc enfin votre petite pause musicale bien méritée après ces quelques minutes de blabla. Thank you. on vient d'écouter Clara Rockmore qui reprenait le signe de Camille Saint-Saëns, remarquable joueuse de thérémine. Alors plus tard, dans les années 20, les ondes Martenot françaises et leur équivalent allemand le Trontonium vont se concrétiser. C'est des instruments avec un son qui est proche du thérémine, mais une manière de jouer plus similaire à celle d'un clavier. Même s'il est toujours possible de jouer des glissando avec le ruban qui actionne le son. On parlait du thérémine et de l'évocation des extraterrestres, le Trontonium va servir quant à lui à faire les effets sonores des oiseaux d'Hitchcock en 1962. Celui-ci ne voulant pas de son naturel, mais quelque chose de plus dérangeant pour le spectateur. Les ondes Martenot, quant à elles, sont assez connues en France du fait d'un répertoire de reprises et de créations assez fourni. Maurice Martenot sera par ailleurs nommé professeur au Conservatoire de musique de Paris pour enseigner son propre instrument. Dans les années 20 et 30, globalement, la multiplication des instruments électroniques fait qu'on ne pourra pas tous les aborder, malheureusement. Néanmoins, on peut retenir le développement des premiers orgues électroniques en France, les instruments qui utilisent l'hétérodyne, et aussi les instruments qui utilisent la lumière pour produire du son, comme le luminaphone. Ça fonctionne comme les systèmes magnétiques qu'on a déjà vus avant, mais avec des cellules photoélectriques qui sont sensibles à la lumière. C'est cette technique qui sera notamment utilisée par Henry Cowell et Léon Theremin pour le Rhythmicon, première boîte à rythme de l'histoire. En 1940, l'ancêtre du vocodeur, le vodeur, issu de recherches sur la compression pour de la téléphonie cryptée, est la première machine qui tentera, à l'aide d'échantillons de voix analysés au préalable, de synthétiser la voix humaine.
La machine utilise seulement deux sons produits électriquement. L'un d'eux représente le breath. L'autre, la vibration des vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice.
Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me with no expression.
She saw me.
Now say it in answer to these questions. Who saw you?
She saw me.
Whom did she see?
She saw me.
Did she see you or hear you?
She saw me.
Enfin, les années 40 verront se populariser l'orgue Hammond américain, digne descendant du télharmonium, avec les roues phoniques, mais en moins encombrant, avec un meilleur son et produit en série. Il équipera d'abord les églises, puis par détournement, les musiciens de jazz. L'orgue Hammond est à l'image du reste des instruments de l'époque. La plupart des grandes innovations sont établies, les constructeurs cherchent maintenant à miniaturiser et à rendre musicalement puissant leurs créations, avec de la polyphonie par exemple. Puis, à la fin des années 50, les premiers synthétiseurs programmables sont élaborés à l'université de Columbia, aux États-Unis. Les Mark I et Mark II de la Radio Corporation of America sont issus de recherches très en avance sur leur temps. La RCA voulait à la base, à partir de l'électronique, trouver la recette des tubes musicaux pour créer de A à Z des morceaux populaires sans passer par des instruments acoustiques, pour réduire les coûts bien sûr, en arrangeant automatiquement des partitions jouées par des instruments électroniques. En gros, on parle ici à peu de choses près d'intelligence artificielle, de deep learning, d'informatique musicale et de format MIDI avant l'heure. En effet, on pouvait écrire des partitions dans un langage binaire et déterminer par du papier à trous les caractéristiques des sons produits. La longueur de la note, son attaque, etc. Ces synthétiseurs inspireront plusieurs compositeurs de musique contemporaine tant l'approche de la musique s'en trouve transformée. Malgré tout, la technologie utilisée par ces véritables ordinateurs analogiques fut vite rendue caduque, par l'arrivée du transistor dans les années 60 qui bouleversa l'industrie électronique tout entière.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Campus Tour, 99.5 FM, et non, c'était pas un chat qui marchait sur un piano, c'était Charles Wuorinen, Times Encomium, une pièce composée en 1969, enregistrée avec le Mark II, donc l'un des deux synthétiseurs de la Radio Corporation of America. Alors, on vient de parler de l'avancée des instruments électromécaniques et électroniques dans la première moitié du XXe, mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté des artistes et des créatifs ? On va s'intéresser à cette même période, du coup, mais dans le domaine de la musique savante. Plongeons dans la musique d'avant-garde, celle qui crée le bruitisme, le minimalisme et l'intérêt pour la répétition. Replaçons-nous dans le contexte. Pendant la première moitié du XXe, l'art d'avant-garde, notamment dans la musique, se met à l'ère industrielle, avec tout ce qu'elle offre comme nouveaux concepts, comme nouvelles significations. Ayant épuisé toutes les possibilités du courant romantique, certains compositeurs du XXe vont s'aventurer hors de la tonalité, pour s'intéresser davantage au timbre et au son percussif. Il y a une envie claire de briser les règles établies. On a déjà parlé des sensations du ton de Helmholtz en 1873, mais en 1913, Luigi Russolo publie L'art des bruits, un manifeste qui donne naissance à la musique bruitiste. Russolo fait partie du mouvement des futuristes italiens, un mouvement artistique fasciné par le monde moderne industriel, ses machines, sa vitesse. Il théorise que l'oreille humaine est désormais entourée du bruit des machines, par rapport à une époque pas si lointaine où le bruit n'était pas si omniprésent. Conjuguant cette théorie avec son désir de briser les codes, il établit que l'homme est désormais prêt à écouter une musique allant au-delà du principe de tonalité, et n'est d'ailleurs plus stimulé par les sons purs, après quelques siècles d'exploration vers des accords et des notes de plus en plus complexes et dissonants. Sauf que, dit-il, ce souhait est limité par les instruments d'orchestre de son époque. La diversité des timbres est très restreinte, c'est pour cela qu'il se réjouit des possibilités que l'électronique naissante va apporter à la musique. Son attention est louable, et l'histoire lui donnera partiellement raison. Mais bon, ses propres compositions vont évidemment être plutôt mal accueillies par le public à l'époque, qui n'a jamais entendu parler de musique bruitiste. Toutefois, ce manifeste fait « entre guillemets grand bruit », c'est le cas de le dire, dans le milieu artistique, et préfigure les grandes lignes de ce que sera la musique moderne du début du XXe siècle. Quelques années plus tard, George Antheil continue sur la lancée bruitiste lors de la composition de la bande-son du Ballet Mécanique, un film futuriste, dadaïste, donc qui brise toutes les règles. Un film sorti donc en 1927, où la musique sort de la tonalité. Les pianos sont dissonants, les percussions sont beaucoup mises en avant, et chose originale, l'une des parties est écrite pour une hélice d'avion. En effet, la mise en avant de la percussion est combinée à une volonté de détourner des éléments industriels. C'est ce que fera notamment le français Edgar Varèse à partir des années 20. Préférant parler de matière sonore plutôt que de musique, Varèse est à l'origine de la première pièce entièrement composée pour de la percussion. Ionisation, c'est son nom, ne requiert pas moins de 37 instruments pour 13 musiciens. Ce sont majoritairement de petits instruments à percussion, mais la pièce emploie aussi des fouets et surtout une sirène. Varèse va aussi composer Intégrale avec un S. L'une des premières pièces où le compositeur prend en compte la notion de spatialisation du son. Enfin, la première composition pour instruments électroniques et acoustiques arrive en 1938, et elle est signée par une femme, Johanna Magdalena Beyer. Voici Music of the Spheres. C'était un extrait du début de Music of the Spheres de Johanna Magdalena Bayer, la compositrice de la première pièce finalement pour instruments électroniques et acoustiques qui arrive en 1938. Alors forcément, c'est une femme, donc elle est très peu reconnue de son vivant et son œuvre est redécouverte quelques dizaines d'années plus tard dans un contexte de plus grande diversité dans l'art, à grand renfort des mouvements féministes de l'époque. Alors là, on parle de musique pensée pour être jouée devant un public, mais parallèlement, la radio amène à la construction de premiers studios rassemblant du matériel de diffusion et d'enregistrement. C'est dans l'un d'eux qu'à Seattle, John Cage compose en 1939 la première pièce de ses Imaginary Landscapes. Celle-ci est conçue pour être jouée par un piano préparé, c'est-à-dire un piano avec de petits objets sur les cordes pour altérer le son. Une cymbale et enfin des phonogrammes avec différents disques dont on fait varier la vitesse. John Cage, par son cursus musical, relie deux courants de la musique moderne qui, à leur manière, brisent les règles. On a déjà parlé du bruitisme, mais au-delà de ça, John Cage a eu comme professeur Arnold Schoenberg, un compositeur ayant inventé le dodécaphonisme et la musique sérielle. Alors, bon, vous êtes un peu perdus, je le sais, mais rappelons ce que c'est une tonalité. La tonalité, fondement de la musique occidentale, est avant tout une hiérarchie. C'est un équilibre entre les 8 notes de la gamme. Si on prend la gamme de Do majeur, la note la plus importante, c'est la première, Do. C'est la tonique. C'est généralement la tonique qu'on entend à la fin d'un morceau en musique classique. Puis on a aussi la cinquième note, dans notre exemple c'est Sol, appelée la dominante, et puis la quatrième, la Fa. Plus généralement, on a 12 sons possibles en musique occidentale, avec les dièses et les bémols, qui forment la gamme chromatique. Au lieu de complètement dégager toutes les règles de la musique occidentale, Schoenberg, lui, va juste dégager la tonalité, en donnant une importance égale aux 12 notes de la gamme chromatique. 12, dodéca, ça donne le dodécaphonisme. Dans ce style de composition, Schoenberg, qui aime se créer des problèmes dans la vie visiblement, pense en termes de séries. Il essaie de composer chacun de ses morceaux avec une seule série de 12 notes chacune, en s'interdisant d'utiliser deux fois la même note dans la série. Bon alors bien sûr, durant le morceau, la série peut être utilisée à l'envers, ou avec toutes sortes d'inversements. L'influence de Schoenberg et de la musique sérielle, tout autant que le bruitisme, sera immense sur les travaux de John Cage. Voici Imaginary Landscape numéro 1 de John Cage. C'était John Cage, son premier Imaginary Landscape, donc paysage imaginaire. Vous êtes sur Radio Campus, 99.5 FM, Radio Campus Tour, pardon, et vous écoutez Revolution 909, votre émission sur l'histoire de la musique électronique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la musique savante et aux premiers instruments électroniques au XXe siècle. Alors, John Cage, dont on vient d'entendre l'une des productions, poursuivra toute cette exploration de l'électronique dans le reste des Imaginary Landscapes, employant tour à tour oscillateurs électroniques, enregistrements et petits instruments originaux, comme des canettes en métal ou carrément une poubelle, jusqu'à l'ultime partie employant la bande magnétique en 1952. Ah là là, la bande magnétique. Avec la percée du magnétophone à la fin des années 40, la bande magnétique va pouvoir être utilisée comme instrument. À partir de 1948, le français Pierre Schaeffer crée avec disques, vinyles et bandes magnétiques ce qu'il appelle la musique concrète. Pour parler très simplement, Schaeffer élabore les techniques qui se retrouveront dans les samplers. Par exemple, il utilise des sillons fermés sur les vinyles pour mettre un son en boucle. Mais il fait aussi varier le son dans sa longueur, sa vitesse ou en le mettant carrément à l'envers. Il imagine une musique dans laquelle le travail d'élaboration est inversé. Le compositeur recueille du son concret, donc naturel et non musical, donc il le recueille avec un micro, et assemble différents échantillons pour faire ressortir leur aspect musical. Pas besoin d'instrumentiste, la composition et l'exécution est assurée par une même personne. Il préfigure là l'arrivée du studio tel que nous le connaissons aujourd'hui, celui que les Beatles mettront en lumière 10 ans après, en expérimentant une musique qui devient impossible à reproduire en direct. Bref, Pierre Schaeffer, accompagné de son assistant Pierre-Henri, crée en 1951 le groupe de recherche musicale, le GRM, sorte de laboratoire pour savants fous du son. C'est ici que la musique concrète va se développer, avec Pierre-Henri et d'autres. C'était Symphonie pour un homme seul de Pierre-Henri. C'était précisément le premier mouvement qui s'appelle Prosopopée. En 1951 également, Herbert Heimer fonde à Cologne en Allemagne de l'Ouest le studio für Elektroische Musik, basé dans la radio publique ouest-allemande. À contre-pied de la musique concrète se développe la musique électronique, composé de sons entièrement produits par l'électronique. L'icône du studio, Karlheinz Stockhausen, s'installe à Cologne après quelques années au GRM français, et sera l'une des inspirations phares de bon nombre d'artistes populaires des décennies suivantes. Dès 1952, la Tape Music American s'installe à l'Université de Columbia, à New York, puis une dizaine d'années plus tard à San Francisco, où un deuxième centre de recherche ouvre ses portes. C'est notamment là que Donald Buchla va créer son premier synthétiseur, qui va être utilisé par Morton Subotnick pour Silver Apples of the Moon, grande inspiration pour les musiciens rock psyché de la fin des années 60 et des années 70. Alors certes, les studios et centres de recherche allemands, français et américains sont déterminants dans la formation de la musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais elle reste à l'époque très confidentielle. C'est de la musique savante, quoi. Même si des musiciens ou des étudiants s'en trouvent inspirés, ces musiques n'atteignent pas le grand public, ou en de rares exceptions près. Alors que la première bande-son de film entièrement électronique apparaît en Amérique en 1956 avec Planète Interdite, le BBC Radiophonic Workshop, créé en 1958, va être mis à contribution pour créer des jingles et des identités sonores d'émissions en Angleterre. Et surprise, les deux compositeurs les plus connus là-bas sont des compositrices, Daphne Oram et Delia Derbyshire. C'est à la télé anglaise que l'électronique apparaît pour la première fois de façon récurrente dans l'imaginaire sonore du grand public, avec notamment le générique culte de Doctor Who en 1963. C'était le générique de Doctor Who, le premier générique donc en 1963. À noter que bah, pour ceux qui connaissent la série aujourd'hui, bah, le générique il n'a pas vraiment changé, il y a toujours le même petit hook si particulier. Donc autant pour Planète Interdite que pour Doctor Who, les sonorités électroniques, à cause en partie des œuvres de science-fiction, ont tendance à immédiatement évoquer le surhumain, l'ailleurs, le voyage cosmique. Ce rapport entre l'espace et la musique électronique préfigure déjà tout le mouvement minimaliste, la space music et l'ambient des années 60 et 70. On a assez parlé de bruit, bon, concentrons-nous maintenant sur la répétition et la musique minimaliste qui lui est associée. La musique sérielle, par sa rigueur, apporte qu'on le veuille ou non un certain aspect répétitif. Les premiers compositeurs minimalistes, comme Lamont et Young, s'inspirent donc au départ du dodécaphonisme en étirant tout au maximum. Les notes des violons de son Trio for Strings de 1958 peuvent durer jusqu'à 4 minutes. 4 minutes d'une même note, hein, comme ça. C'est... Ah oui, le mec est comme ça. Le véritable point de départ du minimalisme est la pièce In C, traduction en Do, de Steve Riley, composée en 1964. Comme certaines pièces de Stockhausen ou de John Cage, In C est composée de petites cellules musicales que les différents instruments peuvent répéter à l'envi avant de passer aux suivantes, pendant qu'un piano martèle la note Do tout au long du morceau. Ainsi, la pièce n'a pas de durée définie. Deux autres contemporains de Riley, Philip Glass et Steve Reich, apporteront énormément de choses à la musique minimaliste. D'abord, leurs pièces reviennent à la tonalité, ayant tous les deux peu d'attirance pour la musique sérielle pure et dure. De plus, vous l'aurez remarqué, jusque-là, les compositeurs minimalistes n'utilisent pas forcément d'électronique pour leur musique. Eh bien, l'un des moments phares de la vie de Steve Reich sera sa découverte du déphasage, peu après Steve Riley. Alors qu'il faisait lire à deux magnétophones le même enregistrement, l'un d'eux a eu un petit problème, et l'ensemble se mit alors à se décaler petit à petit. Il trouva alors l'idée particulièrement intéressante, plus même que le décalage fixe entre deux mêmes enregistrements sur lesquels il travaillait alors. À partir de là, Steve Reich fait enregistrer des pièces démonstratives avec bandes magnétiques. Mais il compose également des pièces acoustiques, où de vrais musiciens vont devoir progressivement se décaler entre eux. On assiste en fait là à quelque chose d'assez unique. Désormais, l'électronique influe sur la composition de pièces acoustiques. Et pour ce qui est de la notion de répétition et de minimalisme, évidemment que ça fait aussi penser à la façon dont on peut manipuler le son par l'électronique. Mais en fait, ça évoque plus largement la machine et l'industrie. C'est pour ça que ces courants se sont élaborés très tôt au XXe siècle. Et puis, même si ce minimalisme s'inspire de la musique sérielle, il n'en désire pas moins s'en émanciper assez vite, du fait d'une conception artistique différente. Ces musiciens cherchent au contraire, dans l'avènement des machines électroniques, une occasion de redécouvrir le rythme et l'harmonie, en plus de la répétition. C'est par exemple Lamont Young qui va utiliser pour la première fois des drones, des sons continus, dans ses compositions minimalistes, préfigurant la musique ambiante. Ça va être inventif pour les alarmes incendies à l'époque. Non, plus sérieusement, du coup, ça c'était un morceau de Lamont Young et du Dream Syndicate, donc un des groupes de Lamont Young. Cette musique s'appelait Pre-Tortoise Dream Music. Bon, on a un peu fait le tour de la musique savante et des premiers instruments électroniques. Maintenant, il est temps de faire des petites précisions sur l'appellation de la musique électronique. Aujourd'hui, on parle de musique électronique pour toute musique dont l'instrumentation est composée de sons sortant de synthétiseurs ou d'échantillonneurs, de machines électroniques. Au final, c'est pas très différent du courant allemand qui désigne à la base l'appellation. Pourtant, aujourd'hui, musique électronique, ça désigne pas un genre, mais une catégorie liée aux instruments utilisés pour différents genres musicaux, comme l'ambient ou toute la dance music qui descend de la house et de la techno. C'est une catégorie au même titre que l'appellation musique vocale pour le rap ou la pop. Mais plus précisément, au niveau sonore et musical, les différentes innovations qui ont vu le jour ont été produites d'une certaine manière, sous une certaine forme, avec certaines possibilités. Par exemple, les synthétiseurs ont quasi unanimement adopté l'interface du clavier, comme sur un piano. L'interaction humaine avec un instrument électronique, et donc tout ce qui peut en devenir artistique, est nécessairement reliée aux conditions de conception et d'utilisation du matériel électronique. C'est pareil que pour les instruments traditionnels, en fait. Ainsi, l'existence en tant que telle des différents instruments électroniques créés depuis le 19e siècle conditionne la façon dont ils peuvent être utilisés, autant dans leur qualité que dans leurs limites. Mais comme ils sont électroniques, les récurrences sonores et autres caractéristiques qui vont s'en dégager vont différencier la musique dite électronique du reste du champ musical. Par exemple, les arpégiateurs automatiques, la tendance à la répétition ou le rythme saccadé, toutes ces caractéristiques sont symptomatiques d'une branche d'instruments musicaux sensiblement différents de leurs ancêtres acoustiques. Donc, la grammaire, les codes de la musique électronique sont d'abord conditionnés par la forme même des instruments électroniques. Ainsi, durant toute la première partie du XXe siècle, la grammaire musicale que représente la musique électronique a été une interaction constante entre des innovations et limites matérielles et des comportements humains, artistiques, de musiciens. Mais cette grammaire électronique, on le voit bien, a sensiblement évolué tout au long du XXe siècle. Au moment où une partie de la musique savante s'approprie les premières machines électroniques à peu près utilisables après la guerre, toute une génération de musiciens, notamment représentés par les Schaeffer et Henry, pour la musique concrète, en profite pour se débarrasser des codes musicaux classiques, et ont l'espoir à un moment de représenter une alternative nouvelle à la façon dont on concevait la musique. C'est en réaction à ces courants européens, inspirés du sérialisme et du brutisme, que les minimalistes américains souhaitent a posteriori revenir à l'harmonie, au rythme. Quelques années plus tard, cette accalmie, entre guillemets, permettra sans nul doute une intégration d'autant plus rapide de l'électronique au sein de la musique populaire. Après, cette intégration dans la musique populaire n'est pas forcément négative. Il faut plus le considérer comme un fait. L'adoucissement progressif permettra tout de même à la musique minimaliste de conserver une grande influence sur les musiques populaires contemporaines, et de toute façon, les musiciens électroniques ont tous à peu près conscience d'eux-mêmes et de l'héritage qu'ils portent, autant celui de la musique concrète que du minimalisme. Cette intégration dans la musique populaire ne s'est toutefois pas seulement réalisée avec un retour à des repères musicaux plus classiques, mais aussi bien sûr grâce à une nouvelle génération d'instruments enfin accessibles. En effet, il manque quelques petits éléments pour démocratiser l'utilisation de la synthèse sonore et des outils électroniques. Un moindre encombrement, un prix plus accessible et une conception plus ergonomique pour les musiciens. Un truc de moins artisanal en gros. C'est ce que vont s'employer à réaliser différentes sociétés, comme celle de Robert Moog, Donald Buchlin, dont on a déjà parlé, ou encore Paolo Ketoff, durant les années 60. Ceux-ci commercialiseront les premiers modèles de synthétiseurs analogiques, d'abord des modulaires, très massif, avec plein de fils partout, et plus tard des modèles plus compacts. Robert Moog, notamment, va voir l'un de ses instruments être utilisé par un étudiant en composition, Walter Carlos, pour reprendre des compositions de Jean-Sébastien Bach. Switched on Bach eut un succès inespéré et offrit une publicité magistrale pour la société Moog, ainsi que pour l'instrument synthétiseur en général, prouvant qu'un instrument électronique était polyvalent et pouvait jouer aussi bien de la musique classique, avec de l'émotion, que des pièces contemporaines froides et mécaniques. Bon, je caricature, bien sûr. Mais il faut se rappeler de la conscience de l'époque, entre guillemets. Mais bon, Walter Carlos, qui va devenir Wendy Carlos, va contribuer à l'intégration de l'électronique dans la musique de cinéma. Elle participera tour à tour à Orange Mécanique, puis réalisera les BO de Shining, puis de Tron, en 1982. L'un des premiers films utilisant l'animation 3D par ordinateur.
Thank you.
C'était Air on G-String, donc l'air sur la corde de sol, si je dis pas de bêtises, de Wendy Carlos, qui était donc un des morceaux sur son album Switch Turn Back. Donc un album qu'elle a réalisé en reprenant du Bach et en le jouant au Moog. Sauf qu'à l'époque, les premiers synthétiseurs Moog, ils étaient monophoniques, c'est-à-dire qu'on pouvait faire qu'une note à la fois, on pouvait pas faire d'accord. Donc à l'époque, Wendy Carlos a dû enregistrer chaque partie coup sur coup. Donc faut se représenter l'ampleur de la tâche, surtout pour du Bach. Enfin voilà. Et donc pour finir, toute la fin du XXe siècle sera consacrée au développement de la computer music ou informatique musicale. Initialement, de nombreuses recherches visaient au départ à permettre à l'ordinateur de composer de la musique grâce à des algorithmes, mais le développement de l'informatique musicale va donner ce qu'on appelle aujourd'hui la MAO, ou musique assistée par ordinateur, après de longues années de développement en parallèle des progrès techniques, notamment à l'IRCAM, successeur du GRM en France. Merci à tous d'avoir écouté cette émission sur les premiers instruments électroniques, ainsi que leur utilisation par la musique savante. Dans un mois, j'espère vous retrouver pour parler de l'arrivée de l'électronique dans la musique populaire, autant dans le rock que dans le jazz. Alors après toute cette histoire, vous voudrez sans doute entendre un petit peu de la musique. Pour ce faire, j'ai quelques derniers morceaux, une petite sélection, qui est plutôt intéressante, qui est pas de l'électronique dure, pas tonale, etc., comme ce que j'ai pu vous faire écouter au tout début. Donc pour commencer, on va revenir sur Wendy Carlos. Ça dure pas longtemps. Là, c'est juste un des morceaux qu'elle a fait pour le film Orange Mécanique. On écoute ça tout de suite. C'était n'importe quoi, hein, clairement. Donc, pour resituer dans le contexte, en fait, ce morceau, il est dans Orange Mécanique. En fait, il illustre une partie qui est en accéléré, qui est un timelapse, où bon, un des héros du film, on le voit coucher avec des femmes. Mais du coup, c'est en timelapse. Donc, à la fois, le film est en accéléré, et donc la musique est super entraînante. C'est assez bizarre. Donc, pour resituer, c'est l'ouverture de Guillaume Tell, du compositeur italien Rossini, donc toujours par Wendy Carlos. Et c'est vrai que la rapidité d'exécution de Wendy Carlos, on dirait presque un morceau de hardcore, hein, avec les petites cymbales sur chaque temps, etc. C'est assez marrant. Alors, autre petite chose intéressante, on va aller du côté de l'Angleterre. On va revenir en fait au BBC Radiophonic Workshop. Et sur Delia Derbyshire, donc je vous rappelle la compositrice du générique de Doctor Who. Et donc là, on va écouter tout de suite sa composition qui s'appelle Pot au feu, créée en 1968.
Thank you.
C'était Delia Derbyshire, donc sa composition Pot-au-feu, écrite en 1968. Alors, on l'a vu là, de ce que vous entendez, on voit un morceau d'ambiance cinématique. Alors, je l'ai sélectionné parce que parmi les nombreux morceaux que j'ai découverts au moment de préparer l'émission, ça m'a fasciné en fait ce morceau parce qu'il est super moderne. Il fait à la fois penser à de la musique de jeux vidéo, à la fois pour son côté musique d'illustration, mais aussi par des sons qui sont assez simples, notamment des échantillons de basse ou d'instruments comme du violoncelle. D'ailleurs, ces échantillons, qui, je le rappelle, ont été accélérés ou ralentis manuellement pour changer leurs notes, font penser à une instru en fait, de trap contemporaine. En fait. D'ailleurs, ça n'a pas échappé au rappeur américain Danny Brown et à son beatmaker, qui ont allègrement samplé Derbyshire pour le titre « When It Rain ».
Have you ever been stiffed at work?
Well, I've never been stiffed at work.
Ça, c'est le sample.
When I'm back, go dangerous, on that cat. Go tracks, man, hit it from the back. DJ hop and slap me back. Bruiser Brigade, we run that train. Put that thing in her caboose. Only way you hang is where I knows. Beef with us, there ain't no tropes. Y'all niggas lame, y'all ain't like us. Hang up with a double off, ain't your dust. For that money, ain't that we trust. All for people, for greed and lust. When you put the trust, when guns gon' bust. Living every day like it's the end. Just waking up, feeling like a sin. Gotta keep an eye on all your friends. Cause everybody hungry, ain't no streets. Nigga, rub your grandma for something to eat. Know it's fucked up, that's how I be. Growing up living every day in a day, and it don't seem like shit gon' change. No time to in the city I boom. Jump from the town, we emerge from the room. Sold our coat, ducks, we got sound. Here we go, now here we go. Ain't no water, high flower gon' grow. Ain't no change, then how we gon' change? No umbrella, we stuck in the rain. Dark clouds hanging all over our head. No shine, shine, and them shines be lit. Lighting up squares, and them dots be red. Make your best friend dead shot in the head. Drink, drink. Oh, you ain't know that. When it rain, when it pour, get your ass on the floor now. Oh, you ain't know that. Better luck when you hear them gunshots go off. Pop off when those shots go off. Knock off, you're trying to play me soft. Glock sign on your face, dog. No baseball. Better run home. Hit your line, blood.
Voilà donc tout pour Danny Brown, When It Rain, qui est donc publié sur Warp Records en 2014. C'était mon dernier morceau pour cette émission. Merci d'avoir écouté. Donc cette première émission de Revolution 909 sur Radio Campus Tour, 99.5 FM. Pourquoi pas au mois prochain.